Radio Barque, donc notre troisième partie prévoit comme invité Monsieur Perea, Alain Perea, député de l'Aude pour La République En Marche, comme je l'annonçais précédemment. Alors on va commencer peut-être par un état de lieu, si je puis dire. Ça fait maintenant grosso modo une année et demie que vous êtes élu, que le gouvernement est élu, que le président a été élu, puisque ça a commencé par ça. Au début, il y a toujours ce qu'on appelle une espèce de période un peu... une vague d'utopie qui porte, où tout se passe bien, c'est ce qu'on appelle l'état de grâce. Là, c'est terminé. Ça a même l'air d'être très terminé. Pour quelqu'un qui n'était pas naïf, c'était relativement prévisible, mais c'est quand même pas toujours facile à vivre. Comment justement, vous, Alain Perea, vivez-vous cette période où on retombe sur Terre, en quelque sorte ?
Alors, je crois que sur Terre, nous avons toujours été sur Terre. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont voulu laisser dire au début, que nous n'étions pas des gens expérimentés ou au courant, moi et puis quelques-uns de mes collègues, on a toujours su que cet état de grâce allait cesser et que nous rentrerions à un moment donné dans le vif du sujet. Voilà. Nous avions un programme. Je rappelle que de nombreux opposants disaient « on ne peut pas élire Macron, il n'a pas de programme ». Et finalement, on voit bien qu'on a un programme. Aujourd'hui, on nous reproche de mettre en œuvre notre programme. Je crois qu'on ne peut pas nous reprocher de ne pas faire ce que nous avions dit. Nous le mettons en place. Nous avons sûrement quelques difficultés à expliquer ce que nous faisons. Et puis, au-delà de ça, il y a une vraie évolution sociologique de la relation des Français à la politique. Et je crois que le mouvement des Gilets jaunes, dont nous allons sûrement parler, en est véritablement le symbole.
Alors, à propos de communication, d'explication, on sait aujourd'hui qu'on fait beaucoup appel aux réseaux sociaux, avec les avantages et les inconvénients. Vous êtes vous-même peut-être tombé dans un piège, je ne sais pas, récemment, à propos d'un tweet concernant la chasse et les gens qui se promènent dans la nature en VTT. On vous est tombé, comme on dirait vulgairement, on vous est tombé dessus de façon parfois très, très virulente.
Et sur les membres de ma famille aussi.
Oui, c'est la façon un petit peu justement complètement déchaînée dont ça se passe parfois au niveau de ces réseaux. Avec le recul, quelles leçons éventuellement tirez-vous de cet épisode ? Est-ce que vous vous dites « j'ai été maladroit » ou « je me suis laissé piéger » ou comment
alors,
avez-vous réagi ?—
Me laisser piéger, non, parce que personne ne m'a demandé de faire ce tweet. Donc c'est pas un piège. La deuxième chose, est-ce que ce tweet est maladroit ? Sûrement. Sûrement parce que dans sa tournure, il est dans une tournure au second degré.
— Parce qu'il est trop elliptique.
— Je rappelle aux auditeurs que je pose une question... En aucun cas, c'est une affirmation. Et cette question est immédiatement transformée par les réseaux sociaux en « cet alcoolique de chasseur veut interdire la chasse, veut interdire le VTT. C'est normal, il est suspect puisqu'il est chasseur et il est député.
Voilà. » Voilà. Et en plus, immédiatement, on vous accuse de vouloir déposer un amendement.
— Déposer une loi. Bon, alors que ça n'a jamais été mon cas. Moi, ce que je voudrais dire très rapidement pour pas... Il y a depuis des années des accidents. Il y a, l'année dernière, il y a eu 13 morts et puis 200 blessés. Tout à l'heure, Michel Santo parlait de courage politique. Quel homme politique a eu le courage de s'attaquer à ce dossier ? Aucun. Voilà. Le seul qui ouvre ce dossier, c'est moi. J'ouvre ce dossier et je dis, on ne peut pas continuer à laisser des gens être blessés, laisser des gens se faire tuer... Et parce que c'est un dossier compliqué, parce qu'immédiatement on est catalogué de pro-chasseur ou d'anti-chasse, on ne peut pas ouvrir ce dossier. Et donc, parce que je suis aussi un élu de territoire, parce que je suis aussi un élu qui connaît ces dossiers, eh bien, j'ai eu le courage de le mettre sur la table. Et je ne suis pas heureux d'avoir pris tous les coups, y compris les membres de ma famille qui se sont fait insulter sur les réseaux sociaux, mais par contre, là où je suis heureux, c'est que, y compris le journal d'équipe, là, vient de faire un grand papier, vient d'ouvrir véritablement, enfin, ce dossier. Et bien sûr que chaque mort, chaque blessé, c'est grave. Mais si cette année et les années suivantes, il y a moins de blessés, il y a moins de morts, et si nous arrivons à régler ce dossier, eh bien, peu importe les insultes que j'aurais reçues, peu importe les coups que j'aurais reçus, je mettrai ça à mon crédit. Et donc, au final, je suis fier d'avoir eu le courage de dire les choses que personne avant n'avait eu le courage de faire.
Mais vous vous apercevez que sur un certain nombre de dossiers, dont celui-ci, on a énormément de mal en France simplement à débattre, tant les clivages sont forts. Est-ce que c'est pas un peu l'image générale de beaucoup de choses en France ?
Alors, moi je crois que les choses ont...
Je veux dire débattre sans a priori.
Moi, je voudrais rappeler que la démocratie, telle qu'elle a été inventée, mise en œuvre, notamment par les Grecs, elle est fondée sur le débat. Elle est fondée sur le débat. Et on ne peut pas continuer clairement à se poser la question de notre fonctionnement démocratique tant que nous n'aurons pas retrouvé une sérénité et une qualité de débat qui est à ce niveau-là. Certes, le personnel politique en est en grande partie responsable, et je m'y mets dedans. Mais moi, j'invite véritablement à ce que nous ayons une réflexion à toutes les échelles, afin de véritablement nous reposer la question de comment on organise le débat démocratique dans notre pays. On ne peut pas être en permanence sous des tensions, des pressions, des insultes, sans aller au-delà. Et je voudrais juste faire une parenthèse. Il y a quelques années, je suis allé au Chili, un pays qui sort de la dictature. La qualité du débat et apprendre à débattre est un des axes forts de l'éducation nationale. Parce qu'ils savent, au Chili, où ça a mené quand on n'a pas le droit de débattre dans un pays.
Voilà. Oui, parce qu'ils ont encore les cicatrices
bien
visibles.
Bien sûr. Et j'ai été sidéré de leur capacité, quelles que soient les personnes que l'on rencontre, à exposer des éléments, à réfléchir et à revenir là-dessus. Et donc, moi... Bien sûr que le français est capable de débattre, bien sûr que le français est capable de réfléchir, je n'ai pas dit ça, je dis juste que c'est la qualité de nos débats, de nos échanges, et il faut véritablement que nous menions une réflexion de fond sur ce sujet.
Alors revenons maintenant au rôle du député, puisque ça c'est clair, c'est incontestable, vous êtes député, vous êtes d'ailleurs signalé pas par les tweets malheureux, mais par des actions réelles, des amendements, des contributions, des débats auxquels vous avez contribué à faire avancer. Quelques exemples concrets quand même pour qu'on voit qu'un député, quand même, ça peut servir à quelque chose à l'intérieur.
Alors, plusieurs exemples. Alors, un sur lequel je ne vais pas revenir, c'est tout le travail que j'ai mené et que nous avons mené avec des collègues sur le vin, mais au-delà du vin, sur l'agriculture. Encore là, en début de semaine, nous avons fait passer un amendement pour améliorer et favoriser l'installation des jeunes agriculteurs. Donc nous menons là-dessus des éléments, des avancées très fortes. Ensuite, c'était la semaine dernière, sur la politique de la ville, les quartiers sensibles, dans Narbonne, eh bien, j'ai pu faire passer un certain nombre d'amendements pour que la ville de Narbonne, l'ordre de grandeur, c'est 1,2 million, mais surtout que cette ville soit enfin dotée ou redotée des outils nécessaires pour avancer. Je ne veux pas revenir, parce que j'en ai déjà parlé aussi, sur les centres-villes. Personne n'avait bougé. Personne n'avait bougé, que ce soit à l'agglomération ou à la mairie, pour que Narbonne soit retenue dans cette opération de revitalisation des cœurs de ville. Et donc, quand je m'en suis rendu compte, j'ai saisi immédiatement le ministère pour que Narbonne soit retenue. Je vois aussi aujourd'hui dans la presse, et j'en suis très heureux, que les services de police, que je remercie parce qu'ils font un travail exceptionnel à Narbonne, sont allés dans le quartier de Bourg avec des élus. Tant mieux, j'y suis allé il y a 15 jours parce que j'avais été contacté par la population. Eh bien, tant mieux si mon action permet aussi de faire réagir à la fois certains services de l'État et aussi quelques élus municipaux.
Et alors, dans le débat, je reviens là-dessus, bien sûr, le débat Orano-Malvézy auquel on faisait allusion tout à l'heure, quand on dit, le maire de Narbonne dit « c'est pas seulement la ville qui doit le faire », le président de l'agglo dit « c'est pas seulement l'agglo », et que finalement on se retourne vers l'État et on dit « mais que fait le député Perea ?» Comment réagissez-vous là ? Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous pouvez avoir envisagé un rôle sur un débat tel qu'il a été, enfin, sur un débat et sur un dossier tel qu'il a été expliqué tout à l'heure par Michel Santo?
Moi je n'ai quasiment rien à rajouter à ce qu'a très clairement dit Michel Santo, et rajouter là à votre antenne que moi j'assume. Et donc s'il y a des gens qui souhaitent me rencontrer pour avoir un débat et non pas forcément une série d'agressions verbales, mais un débat, une vraie discussion au fond. Non seulement j'assume, mais je m'engage aussi là à votre antenne à faire venir des spécialistes neutres, nationaux, qui pourront venir débattre et donner des éléments afin que chacun puisse, dans ce que je viens de dire tout à l'heure sur la qualité des débats, se faire son idée en toute connaissance de cause. Voilà. Et donc là aussi, on revient sur la question du courage politique. Moi, je ne renvoie pas vers les uns et vers les autres. Je l'assume. Et s'il y a des gens qui me le demandent, nous organiserons cette réunion, comme je l'ai toujours fait sur ce dossier, où je ne me suis non plus jamais échappé, y compris pendant la campagne, où il y a des gens qui me disaient « Si vous faites ça, on ne votera pas pour vous ». Mais j'ai continué à assumer. Bon, j'ai été élu, mais ça, c'est peu importe. Ce que je veux dire, c'est que je continuerai, parce que je crois que l'action politique aussi mérite d'avoir une certaine continuité, d'avoir une certaine évolution dans les idées et d'avancer, d'avoir ce courage de mettre en œuvre quelque chose. Et là aussi, je rejoins tout à l'heure ce qui a été dit, c'est qu'on ne peut pas, au gré des informations qui arrivent, en permanence changer de cap. Un cap politique, c'est aussi avoir une vision, savoir où on va, mais ça ne veut pas dire pour autant être autiste ou ne pas écouter ce que disent les gens, mais simplement être capable de mener à bien sa vision.
Alors votre proposition s'adresse notamment aux opposants, à ces gens qui se disent les papillons, ceux qui protestent régulièrement contre ce projet ou ce dossier.
Alors moi je n'étais pas hier au conseil municipal, donc je ne sais pas exactement quelle organisation ou quel groupe a demandé cette réunion. Voilà, moi s'ils me saisissent, c'est avec plaisir et sérieux que nous organiserons une vraie séance de travail et un vrai débat sur le sujet.
Oui, un petit mot, une remarque, Michel.
Oui, à l'Impéria, visiblement, en fait, aujourd'hui, tout le monde dans le petit milieu politique narbonnais vous cible.
Oui, ben là, on va y revenir, c'est les prochaines questions.
Non, justement. Alors, on dit tout, que ce soit Nicolas Sainte-Cluc, le candidat de Jeanne Narbonne, je n'ai pas dit socialiste, le candidat de Jeanne Narbonne attend donc de savoir ce que fera la section socialiste si elle investira lui aussi, elle aussi, Sainte-Cluc. À voir. Mais il y a aussi monsieur Bouly, donc visiblement, ces deux-là, en tout cas, ont bien senti que vous étiez une menace, en tout cas, un concurrent. Et alors, qu'allez-vous faire, en fait? Si il ne fait aucune doute qu'il y aura une liste en marche à Narbonne, vous, comment vous allez vous installer dans cette liste?
Oui, vous avez répondu récemment à nos confrères de la presse à certaines questions. Et bien, maintenant, nous aimerions savoir quel est le fond de votre pensée et votre stratégie à l'Impéria.
Vous introduisez très bien le débat. Voilà. Il y a deux approches. Il y a la première approche qu'ont choisi monsieur Mouly et monsieur Sainte-Cluc, c'est des approches auto-centrées autour de leur personne. Voilà. Je suis le grand chevalier blanc, réunissez-vous tous autour de moi et vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. J'en veux pour preuve encore récemment, monsieur Mouly dit « À l'Impéria veut ma place voilà. ». Je veux pas sa place. Voilà. Ma place comme si lui... voilà. Et donc... ce que je constate aussi, c'est que certains se sont déclarés récemment, hein, je parle notamment de Nicolas Sainte-Cluc, et que on voit pas un grand rassemblement et on voit pas des foules se lever derrière ça. Voilà. Donc ça, c'est leur approche, hein, elle leur appartient. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas un problème d'homme, ce n'est pas un problème d'une personne. Je pense que c'est un problème de quelle est la vision que nous avons pour Narbonne. Les deux personnes que je viens de citer sont passées derrière ce micro. Voilà. Moi, je m'adresse à vos auditeurs. Est-ce que vos auditeurs, là, qui vous nous écoutez aujourd'hui, est-ce que vous avez compris quelle était la vision que portaient ces personnes pour Narbonne et pour la Narbonnaise? Entre un qui vous a expliqué comment faire un recours, mais c'est normal, c'est un avocat, et l'autre qui vous a expliqué comment on branchait les tuyaux devant Narbovia. Voilà. C'est pas ça, être maire de Narbonne. Être maire de Narbonne, c'est avoir une vision. Narbonne est une commune qui est, avec 55 000 habitants, la 100e commune de France à peu près. C'est un territoire de 125 000 habitants, au centre d'une grande région. Voilà. Et donc, si on veut que cette commune se développe, il faut véritablement porter un projet pour ce territoire, porter un projet pour cette commune. Et aujourd'hui, dans les candidats qui sont déclarés, moi, je ne vois aucune vision. Je ne vois que des approches qui sont des approches sur leur avenir personnel. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, ce que je porte, c'est véritablement une idée de rassemblement pour que nous puissions avoir une équipe performante avec un projet qui soit un projet pour Narbonne et non pas pour des individus. Et puis ensuite, les choses se mettront en place. Voilà. Donc moi, je suis véritablement dans cette logique-là. Je l'ai toujours été. Le moment viendra où les candidats se déclareront. Mais de grâce, sortons de ces attaques personnelles les uns contre les autres. Là, récemment, encore une fois, moi, je parlais de l'importance du symbole. Voilà. Quand on est maire d'une commune, on se doit d'assurer la cohésion de sa commune, on se doit d'assurer la cohésion sociale, d'expliquer aux gens pourquoi il est important de se retrouver auprès d'un monument aux morts. Quand je vois ce qui a été fait dans la commune de Sigean, quand je vois ce qui a été fait à Saint-Marcel, quand je vois ce qui a été fait à Villedaigne, et je pourrais citer toutes les autres communes de notre territoire qui ont tous fait un effort pour essayer de porter ça, et quand je vois ce qui a été fait à Narbonne, c'est ça qui me dérange. C'est pas tellement le fait que le maire soit absent. Ce qui me dérange, c'est que nous avons une commune où cette approche-là n'est pas faite. Et en réponse, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que je suis un boulimique. On fait une attaque personnelle. Et donc, on est véritablement à l'envers de ce que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand on est maire d'une commune, quand on est dans un conseil municipal, on se doit d'assurer véritablement une cohésion, d'assurer véritablement une fusion dans la population. Et on est face à des gens qui essayent de cliver en permanence, qui essayent d'opposer les uns et d'opposer les autres. Et moi, ce que je prône, c'est le rassemblement. Et ce rassemblement, s'il doit se faire avec Alain Perrier, il se fera avec Alain Perrier en tête de liste. S'il doit se faire avec d'autres personnes, ben il se fera avec d'autres personnes. Et je les soutiendrai parce que ce qui est important pour moi, c'est pas mon avenir. Ce qui est important pour moi, c'est l'avenir de Narbonne, des Narbonnaises et des Narbonnais.
Alors oui, là, vous faisiez allusion, j'explique quand même pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, au fait que M. Mouly était absent aux dernières célébrations du 11 novembre, et vous l'avez exprimé dans la presse, et vous avez regretté avec une certaine virulence cette absence. Je crois que c'est à ça que vous faites référence.
Oui, mais c'est parce que j'étais en train d'expliquer aux journalistes...
Que c'était avec un symbole.
Qu'avec un certain nombre de députés, nous allons lancer la semaine prochaine au Congrès des maires une réflexion en partenariat avec les maires sur quel doit être le maire après les élections en 2020. Pas doit être le maire dans chaque commune, quelle doit être la mission de maire. Parce que depuis les lois de décentralisation dans les années 80, nous avons eu un combat permanent entre le maire et les communautés de communes et d'agglomération, avec un combat qui est à son paroxysme ici, dans le Narbonnais. Et donc, ce que nous devons faire en tant que législateurs avec les maires, contrairement à ce que fait Monsieur Barouel, le président de l'AMF, qui est en permanence en train de l'opposition, ce que nous voulons faire, nous, c'est de véritablement lancer une réflexion sur quelle est la fonction du maire.
Aujourd'hui.
Voilà, aujourd'hui. Quelle est la fonction du maire aujourd'hui, pour que les nouveaux maires qui vont arriver à leur fonction puissent savoir dans quel état d'esprit le législateur est. Et parmi les missions qui sont importantes dans un maire, c'est d'être au contact de sa population. C'est la plus belle mission quand on est élu. Être au contact de la population, rencontrer les gens, les connaître, les comprendre. Et derrière, les amener sur un chemin, on parlait tout à l'heure de qualité du débat démocratique, les amener sur une réflexion, les aider à aller au-delà des clichés qui peuvent être véhiculés sur les réseaux sociaux. Et là, qu'est-ce que l'on a actuellement ? On a un maire et une équipe municipale qui sont dans le contraire, qui sont en permanence dans le clivage, qui sont en permanence de tourner à la dérision les gens qui essayent de faire avancer les choses. Et donc, c'était parce que j'expliquais ça aux journalistes et que je donnais l'image qu'on ne peut pas avoir des jeunes qui sont au garde à vous depuis des heures, on ne peut pas avoir des parents qui se sont levés à l'aurore, aux aurores, pour amener leurs enfants, et on ne peut pas avoir tous ces gens-là qui attendent et avoir une représentation de l'équipe municipale qui est absente ou en retard, sans un mot d'excuse, comme s'il était tout à fait normal que les élus arrivent là, au dernier moment, ou ne soient pas là, et en se foutant de la population. Non, il faut les respecter. Et c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais montrer, quelles que soient les excuses que l'on peut avoir. Parce que, là aussi, je voudrais dire quelque chose. Dire qu'effectivement, on a été retardé parce qu'on travaillait. Mais tous les parents qui ont amené leurs enfants là le matin, ils travaillent pas eux aussi ? Ils n'ont pas des responsabilités ? Mais eux, ils étaient là à l'heure, ils étaient même là en avance, par respect pour les élus. Voilà. Et donc, ne pas être là à l'heure, c'est ne pas les respecter.
Voilà une polémique qui, sans doute, se poursuivra. Nous le verrons. Un tout dernier mot, quand même, Monsieur Perrier. Dans un pays à forte tradition jacobine, c'est-à-dire centralisatrice, vous vous dites girondin, vous l'affirmez, vous défendez cette idée, vous militez pour cette idée.
Alors je fais plus que militer, puisque nous venons de créer avec deux collègues, nous venons de créer ce que l'on appelle le cercle girondin.
Voilà.
Donc nous réunissons tous les mercredis matin.
Ce n'est en aucun cas. Les girondins, c'est ceux qui sont pour une forte décentralisation.
Exactement. Et nous réunissons. Nous sommes en rien sur une approche qui est une approche frondeuse par rapport à notre gouvernement. Simplement, nous voulons nous assurer que ce que nous mettons en place au niveau de l'Assemblée nationale tienne véritablement compte des territoires. Tout le monde le sait. Hein, moi, je suis fortement ancré dans les territoires, et notamment dans ce territoire de la Narbonnaise. Et je voudrais aussi faire un petit lien avec les Gilets jaunes. Je voudrais en dire un mot, parce que c'est intimement lié. Et Michel aussi en parlait tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui ce mouvement qui est en train de véritablement marquer la fin des partis politiques. Et donc, par rapport à l'intervention de Michel Santo tout à l'heure, qui disait les partis politiques essayent de le récupérer, ils ne peuvent pas le récupérer parce que ce mouvement est le mouvement qui marque véritablement la fin des partis politiques. Et je rajouterai même aussi la difficulté des syndicats qui n'arrivent pas à se retrouver non plus là-dedans. Aujourd'hui, faire de la politique, c'est être au plus proche des gens, être au plus proche de ce qui se passe sur le territoire, ce n'est pas attendre les ordres d'un mouvement qui arriverait d'en haut, et donc nous avons l'obligation d'être proche, d'être à l'écoute, d'être réactif, et ça, c'est en étant véritablement dans les territoires qu'on va pouvoir le faire, mais arrêtons de nous mentir, on ne peut pas dire que l'on est proche des territoires et à la fois prendre ses ordres au niveau de Paris ou de je ne sais où, comme ça a été trop fait par le passé, et donc nous on est véritablement dans quelque chose qui est souple et qui, je le pense, porte ses fruits, va porter ses fruits au niveau national et portera ses fruits dans les mois et les années qui viennent sur Narbonne et le Narbonnais.
Voilà, d'où ce cercle des Girondins et nous conclurons là-dessus. Merci Alain Perea. Notre prochain invité sera justement Jacques Bascou. Il a fortement été évoqué tout à l'heure et il pourra apporter sa parole et notamment démentir un certain nombre de choses s'il le juge utile. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Merci, au revoir.